Bien, bonsoir à chacune, à chacun. Merci de m'accueillir parmi vous. Et c'est un beau sujet, en effet, qui nous réunit, puisqu'il s'agit de l'amitié spirituelle. J'allais dire, avant l'amitié spirituelle, que les chrétiens connaissent et pratiquent, il y a l'amitié. Avant l'amitié spirituelle, il y a l'amitié. Et vous savez, je pense que je vais raviver des souvenirs ou des connaissances. Toute l'histoire de la philosophie d'Occident est liée à l'amitié. L'amitié est la vertu philosophique par excellence. C'est intéressant de le rappeler par rapport à notre époque qui se veut ou sentimentale ou dans l'émotionnel, etc., et qui pense que l'amitié n'est qu'une relation affective. L'amitié est une vertu. C'est pourquoi les philosophes grecs la pratiquaient, enfin, elle était réservée aux hommes parce que, pour eux, les femmes étaient un peu faibles, pas capables, enfin sauf certaines, pas capables d'élévation, de connaissance, etc. C'est une vertu héroïque. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans l'amitié spirituelle. C'est pour ça que je commence dès le début, c'est-à-dire au pré-socratique, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la relation d'amitié entre deux êtres, c'est une relation qui invite, incite, exhorte à progresser, à se perfectionner, à s'élever vers le bien, le beau, le vrai, pour prendre les fameux ternaires platoniciens. Donc l'amitié, ce n'est pas se raconter des histoires, se faire des confidences, il n'y a aucun mépris si je dis ça, mais avant tout, c'est la quête du beau, du bien, du vrai. C'est l'émulation vers le beau, le bien, le vrai. Et toutes les écoles philosophiques de l'Antiquité, que ce soit les stoïciens, les épicuriens, enfin toutes les écoles, y compris les cyniques avec Diogène, ont magnifié l'amitié, j'allais dire l'amitié et même un exercice spirituel. On va dire. On reconnaît qu'on est en marche vers le bien, le beau, le vrai, par la pratique de l'amitié. Donc, et ce n'est pas simplement, ce n'est pas conceptuel, ce n'est pas intellectuel, il y a aussi une grande chaleur humaine, une grande tendresse. Et nous avons beaucoup de témoignages montrant combien, que ce soit Plotin, donc un néoplatonicien, c'est 3e siècle, à Alexandrie, et combien, en effet, avec ses disciples, avec ses, même pas, faut-il dire disciples, c'était plus des amis, justement, des égaux, il y a cette tendresse, cette chaleur, mais qui est orientée. La finalité, ce n'est pas on est bien ensemble, etc., qui est orienté vers plus grand que soi. Et donc, pour les philosophes, c'est cette idée, ces idées immuables, absolues, que sont le beau, le bien, le vrai. Et si on s'intéresse à l'amitié, on est obligé à chaque fois de revenir, de commencer par Aristote, puis ensuite Cicéron, qui ont écrit des textes qu'on peut lire encore de nos jours, et la chance de notre époque au moins, c'est que tous les grands textes de l'humanité, et en ce qui nous concerne surtout de sagesse, de spiritualité, de philosophie, sont écrits, sont traduits dans la langue maternelle, que ce soit français, anglais, espagnol, etc. Ça fait partie des pures merveilles de notre époque, hein, il faut bien le reconnaître. L'amitié, un des premiers textes pour la philosophie antique, c'est Aristote, donc là on est au 4e siècle de notre ère. Je vais un petit peu vite, c'est pour après parler vraiment du sujet qui nous intéresse, mais il faut d'abord poser les choses. Et Aristote, vous le savez, qui a été le précepteur d'Alexandre le Grand, qui a fondé l'école qu'on appelle le lycée à Athènes, il écrit pour son fils Nicomaque, et donc vous trouvez le texte y compris en livre de poche, il écrit « Éthique à Nicomaque », savoir c'est un traité de morale, où il parle aussi bien du bonheur et surtout de la justice, du bien, et surtout un grand paragraphe, enfin pas un grand paragraphe, un livre entier est consacré à l'amitié. Et la grande définition d'Aristote, c'est l'amitié est une vertu, ou tout au moins, elle s'accompagne de vertu. Et ça, on le retrouvera sans arrêt, dès le début, l'amitié est exigeante. Elle est exigeante, c'est-à-dire, elle ne se pratique, diront, y compris Cicéron, Calu, le grand Aelred de Rivaud, dont bien sûr on parlera, qui a écrit l'amitié spirituelle, ce moine cistercien du XIIe siècle. L'amitié ne peut, au sens du terme, ne peut se pratiquer qu'entre personnes, entre parfaits, disent-ils, ou entre personnes, gens de bien. Hein. Si vous n'avez pas cette disposition au bien, vous avez toutes sortes de relations à votre, devant vous, hein, y compris l'association de malfaiteurs. Hein. Mais l'amitié est réservée en effet à ceux qui ont une exigence de qualité, de vertu et de grandeur. Et ce qui est toujours valable pour notre temps, Aristote distingue trois niveaux d'amitié. Il y a l'amitié d'utilité. On la connaît, alors on dit amitié, c'est une amitié un peu bas de gamme, je dirais, c'est le service. Ah ben pendant mes vacances, le voisin ami viendra arroser mes plantes vertes, par exemple. Et le service qui peut tourner à l'intérêt. Bon. Il y a l'amitié d'agrément. Donc, on est amis, c'est-à-dire on fait des voyages ensemble, on partage un repas, des loisirs, des lectures. Donc, ce sont les deux premiers degrés hein, de l'amitié. Et le troisième degré, qui en effet le véritable degré et sens de l'amitié, c'est en effet la recherche du bien, l'exercice de la vertu et le perfectionnement mutuel, réciproque. L'amitié parfaite est celle des bons et ceux qui se ressemblent par la vertu. Voilà. Aristote insiste sur, dès la philosophie grecque, il y a ce sens de l'élévation vers ce qu'ils appellent le principe suprême, parfois même ils disent le Père, ou l'absolu, ou l'un, mais il y a cette élévation, ce perfectionnement qui est permis par cette pratique de l'amitié. Et à grands pas, je vais, puisque là nous étions au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, je fais juste deux, trois jalons pour arriver à notre sujet. Il y a bien sûr du côté latin le grand Cicéron, qui n'a pas simplement été un grand avocat, un homme plein d'éloquence et un grand orateur, je cherchais le terme, mais un philosophe. On oublie qu'il a écrit de très beaux traités, que ce soit sur les devoirs, sur la divinisation, il y a beaucoup de choses. Et le petit traité, qui est aussi en français, qui est magnifique, qui s'appelle « L'amitié de Cicéron », mais la nourriture aussi des premiers moines, des premiers chrétiens. Hein. Il est toujours intéressant de voir comment le christianisme s'est nourri des sources, non seulement des sources juives, mais des sources grecques, hein, sans les renier pour autant. Et dans la tradition, en effet, de l'amitié, tous vont célébrer, les deux amis vont se dire, alors c'est à la fois Diogène qui dit ça, et puis également Cicéron et également Aristote, ils disent, les deux amis, c'est comme une âme en deux corps. Ça, c'est vraiment la formule, et ce n'est pas une formule parce que c'est vécu, mais c'est l'expression qui vient depuis la philosophie grecque et qui sera reprise jusqu'à, pendant des siècles, au Moyen-Âge, chez les chrétiens. Et Cicéron, qui parle de l'amitié comme soleil de la vie, il y a une phrase qui est presque sa définition, qui est très intéressante parce qu'on voit bien que pour lui, l'amitié ne se situe pas simplement sur le plan humain, terrestre, temporel, mais qu'elle vise des biens surhumains, savoir qu'elle vise des biens divins, rien de moins. L'amitié a de hautes exigences et un but élevé. Cicéron dit « L'amitié n'est rien d'autre qu'une unanimité ou communauté en toutes choses, divines et humaines. » Il commence même par les divines. communauté en toutes choses, divines et humaines, assortie d'affection et de bienveillance. Et il ajoute, je me demande si elle ne serait pas, la sagesse exceptée, ce que l'homme a reçu de meilleur des dieux immortels. L'amitié comme cadeau des dieux, c'est par l'amitié que l'on peut s'élever jusqu'aux dieux immortels, puisque telle est la religion des latins. Donc il y a bien l'aspect tendre, affectueux, bienveillant. Vous savez, c'est le fameux amour de bienveillance dont parle Thomas d'Aquin par rapport à l'amour de concupiscence, qui est mal compris. La plupart du temps, nos amours, je fais exprès de le dire au pluriel, ou nos amitiés sont des relations de possessivité, la plupart du temps, ou de convoitise, hein, c'est ce qu'on appelle la concupiscence. Et l'amour de bienveillance, c'est en effet aimer l'autre pour lui, pour ce qu'il est, par le fait même qu'il ou qu'elle existe. Hein, ce n'est rien pour soi, mais c'est tourné vers lui, lui vouloir du bien, hein, la bienveillance. Et voilà les deux grands piliers, j'allais dire, de l'amitié antique, qui sera reprise, et avant d'arriver aux chrétiens, puisque là, j'avais surtout envie de parler, chose étonnante du silence, mais c'est toujours intéressant d'arriver à parler du silence. Je m'arrête sur ce moment particulièrement qui a tellement aimé les sources antiques, à savoir la Renaissance, et tous les humanistes de la Renaissance, Erasme, Montaigne, Rabelais, La Boétie, Thomas More, le grand Thomas More, ont partagé ce goût de l'amitié qui est fait de culture aussi. Pour toutes les personnes du Moyen-Âge et aussi de la Renaissance, il est très difficile d'avoir des relations profondes s'il n'y a pas de culture. L'amour est une culture, Guillaume de Saint-Thierry dit, c'est l'art des arts. C'est ce qui nous élève au-dessus de la nature, justement. Et l'amitié, justement, est cette pratique raffinée, liée par exemple à la conversation, qui est une pratique magnifique, qui tend à se perdre, et qui est nourrie, justement, de culture, c'est-à-dire d'approfondissement et de singularité personnelle. La culture, ce n'est pas la même chose pour tous. Donc, cette qualité de profondeur, de raffinement dans les idées, dans l'énonciation, dans les sentiments. Et tout le monde connaît, bien sûr, la célèbre amitié, mais il n'y a pas eu que celle-ci, entre Montaigne et La Boétie, qui est un peu plus âgé que Montaigne. Et c'est lui, alors entre parenthèses, pour les adolescents, je me dis, il n'y a pas 50 livres à leur faire lire, mais s'il y a un livre à leur faire lire, c'est bien le livre qu'a écrit La Boétie à 18 ans, excusez du peu, et qui s'intitule « Discours de la servitude volontaire ». Et je dis, pour ceux qui n'ont pas le temps, le titre suffit. Discours de la servitude volontaire. Bon, il l'a écrit en 1548. Et Étienne de La Boétie, voilà ce qu'il dit dans ce discours de la servitude volontaire, puisqu'il est un grand chantre de l'amitié, et c'est pour éviter la fameuse formule de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà ce que dit ce jeune homme, Étienne de La Boétie. L'amitié, c'est un nom sacré. C'est une chose sainte. Elle ne se met jamais qu'entre gens de bien et ne se prend que par une mutuelle estime. Elle s'entretient non tant par bienfait que par la bonne vie. La bonne vie, c'est la vie selon le bien. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Et entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compagnie. Ils ne s'entraiment pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices, etc. Et par rapport aux belles choses, j'anticipe un peu sur les fruits de l'amitié, mais il est mort, il meurt à 33 ans, Étienne de La Boétie, Et c'est Montaigne qui va faire éditer ses livres, qui va même, ses poèmes, qui va même inclure dans ses propres essais les poèmes de la Boétie. Donc ça fait, c'est des beaux témoignages d'amitié pour dire qu'il y a vraiment ce lien intime et d'admiration et d'estime. C'est très important aussi. Et fort de cet héritage, le christianisme, je ne dirais pas qu'il invente l'amitié spirituelle, je vais dire quoique, puisque saint Augustin dit que l'amitié se fonde sur l'amour de Dieu. Et donc là, on est au IVe siècle, et dès lors, l'amitié spirituelle, alors je vais tenter des définitions, même si on ne peut pas enfermer une relation de cet ordre, mais l'amitié spirituelle pourrait se définir, en effet, comme c'est un lien d'élection, d'où la distinction, on va dire, avec les relations, avec la charité. Hein, et je ne suis pas la première, la seule à en parler. Donc la charité, caritas, agapé, est censée s'adresser à tous. L'amitié est liée à une préférence. On n'est pas lié d'amitié avec n'importe qui, avec donc il y a une élection. C'est ça qui est beau, hein, parce que c'est l'aspect humain. C'est une relation donc d'affinité, c'est un lien d'élection privilégié entre deux personnes. De même, on n'est pas ami avec tout le monde. Là, il y a que, je crois que Facebook, que j'ignore, qui dit qu'on peut cumuler les mille et les millions d'amis. Hein. Donc cette relation d'affinité, d'élection privilégiée entre deux personnes qui aspirent à une vie spirituelle, qui aspirent au monde divin et qui s'acheminent vers le divin. Ce serait la définition apparemment la plus juste. Et cette amitié, en effet, humaine, terrestre, se fonde sur l'amour de Dieu. Et elle reflète l'amour que Dieu a pour les hommes. C'est pour ça qu'elle est d'une terrible et magnifique exigence. Vous voyez la différence avec l'amitié philosophique, je dirais. Là, l'amitié entre deux êtres humains, c'est bien sûr une relation affectueuse et d'élection, de préférence, mais qui a comme grand point commun, enfin le sommet entre on fait le triangle, le sommet est Dieu. Hein. Après, on dira la même chose aussi pour l'amour conjugal. Mais là, l'amitié spirituelle est donc cette stimulation, cette émulation sur le chemin de la sainteté. Rien de moins. C'est ça, pour ça que c'est terriblement exigeant et magnifique. Une amitié spirituelle, ça peut être en effet, et c'est intéressant, prier ensemble, réfléchir ensemble sur des textes sacrés, aller en pèlerinage, c'est magnifique. Mais là, ce ne sont que des moyens, je dirais. La finalité, si la finalité n'est autre que le royaume des cieux, tant qu'à faire, hein, faut jamais se contenter des miettes du festin, si la finalité, le terme spirituel, c'est le royaume des cieux, eh bien, l'amitié spirituelle, c'est une émulation réciproque, un soutien réciproque et une orientation réciproque sur le chemin de la sainteté. Si on se dit chrétien et on n'aspire pas à la sainteté, on se contente vraiment de... On vit vraiment sous ses moyens. Et, alors, juste une phrase, parce que je sais que ça a été très très commenté, hein, lorsque le fameux passage de l'évangile de Saint Jean 15, chapitre 15, verset 15, quand Jésus dit « Je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami », et je trouve cette phrase extraordinaire, parce que je ne pense pas que les apôtres se redressent et se rengorgent en disant qu'ils sont flattés. Je trouve que la parole du Christ à ce moment-là en disant « je vous appelle mes amis », c'est une exigence terrible, ça veut dire, puisque l'amitié, déjà, et l'amitié spirituelle encore plus, suppose une égalité. C'est ça qui la merveille dans l'amitié. il y a réciprocité, donc on n'est pas ami, j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas de retour. Ça marche souvent dans les relations sentimentales, bon, et c'est même tout le théâtre racinien, mais en amitié, l'amitié est réciproque, sinon elle n'est pas, c'est pas une amitié, c'est du fantasme, l'amitié est réciproque et l'amitié est vraiment une relation d'égalité. Là aussi, le défi. Relation d'égalité. Lorsque Jésus dit « Je vous appelle ami », il dit en effet le serviteur, il craint, il tremble, il sert son maître, donc relation d'inégalité, il est inférieur, l'esclave est inférieur. Bon. Là, je vous appelle ami, c'est-à-dire je vous hausse, je vous hisse à ce niveau-là. En êtes-vous capable? Je trouve que cette phrase est magnifique, parce que ce n'est pas du tout une phrase réconfortante, rassurante, comme on veut bien l'entendre, c'est une phrase de total défi, défi spirituel, magnifique. Enfin, c'est ainsi que je la ressens. Parce qu'en fait, moi j'aime bien, c'est surtout pour vous faire entendre des textes ou pour vous rappeler, faire revivre l'espace de quelques secondes ou minutes des figures et pour des grandes figures et que vous alliez ensuite puiser dans leur œuvre. Parce que c'est cela aussi, la vie spirituelle, encore une fois, se nourrit de culture. C'est très important de lire, de voir tout l'héritage fabuleux de la tradition occidentale. Ça ne veut pas dire que la tradition orientale ou extrêmement orientale n'existe pas, mais je veux dire, si nous sommes en Occident, il y a une tradition extraordinaire, riche. Donc, lisons, creusons et méditons. Au IVe siècle, saint Ambroise de Milan aussi fait l'éloge de l'amitié et il dit « La véritable amitié est celle qui sauvegarde la beauté morale. » Je trouve ça aussi très beau. Celle qui sauvegarde la beauté morale. Alors, bien sûr, vous avez entendu parler, j'espère que vous l'avez lu, sinon vous lirez ce merveilleux texte qui remonte à 1162 et qui s'intitule « L'amitié spirituelle ». De ce grand et cher moine cistercien anglais, Aelred, de Rivaux, A-E-L-R-E-D, et c'est un dialogue... qui reprend le thème des dialogues platoniciens, parce que je vous disais l'importance de la conversation. La conversation, c'est vraiment se frotter la cervelle l'un l'autre, comme disait Montaigne. C'est vraiment échanger en profondeur ce que l'on est, ce que l'on ressent, notre expérience, c'est très important. Et dans cette merveille de dialogue qu'est l'amitié spirituelle, c'est mené, bien sûr, c'est Aelred, le moine de la communauté, qui dirige la communauté, qui va parler avec Yves, un moine, un novice, et il l'a repéré parce qu'il lui dit, tout à l'heure, eh bien, les autres, ils me questionnaient, ils commentaient des écritures, ils faisaient du bruit, les autres frères, et toi, j'ai repéré que tu étais silencieux. Et c'est pour ça qu'il va s'adresser à lui et qu'ils vont parler, donc à Aelred et Yves, sur le thème de l'amitié. C'est une sorte d'accouchement, comme pratiquait Socrate, la maïeutique, sur le thème de l'amitié. Je vous lis juste le début parce que c'est une pure merveille. Et bien sûr, Aelred est totalement nourri, et ça ne lui enlève rien, de Cicéron. C'est-à-dire, ce qui est beau dans le christianisme, et là nous sommes déjà au XIIe siècle, mais on verra aussi avec les pères de l'Église, ou les pères du désert d'abord, c'est qu'ils font leur miel avec, non seulement les Écritures, la Bible, les Écritures sacrées, mais avec la philosophie antique. Puisque tout converge, tout converge, tout achemine vers la révélation. Alors voilà comment ce beau dialogue, Aelred dit à son frère moine, « Nous voici, toi et moi, et je l'espère, entière entre nous, le Christ. » Voilà. Une amitié spirituelle n'existe pas, ou ne mérite pas ce nom, s'il n'y a pas le grand troisième. C'est très beau. Voilà, nous voici, toi et moi, et je l'espère, entière, donc le grand troisième, toujours au-dessus, en grand troisième, le Christ. « En ce moment, rien ne pourrait nous bousculer ou interrompre notre amical entretien. » Aucune voix, aucun bruit ne rejoint notre chère solitude. Allons, très cher, ouvre-moi ton cœur. Glisse à l'oreille d'un ami ce qu'il te plaît de lui dire. Accueillons avec reconnaissance le lieu, le moment et le loisir dont nous disposons. Voilà. Et ensuite, ils vont parler, s'acheminer sur le sens de l'amitié spirituelle. Mais dès le début, vous avez compris que, j'allais dire, la clé de voûte céleste. S'il n'y a pas le Christ entre nous, ça peut être une amitié, une belle amitié, mais ce n'est pas une amitié spirituelle. Et le Christ n'est pas entre nous au sens il nous réunit, c'est vers lui que nous devons nous acheminer, donc nous élever, encore une fois, stimulation et défi, défi à la grandeur spirituelle. Toute l'histoire du christianisme est balisée d'histoires d'amitié spirituelle qui sont très belles. Demain, j'aurai l'occasion de parler de leurs actions plus concrètes dans ce monde. Mais il me semblait intéressant de réfléchir un peu, ou du moins ce sont des premiers jalons, sur ce qui fait, au fond, le partage profond entre deux êtres. Alors ça peut être d'ailleurs deux êtres, un couple, deux êtres qui s'aiment d'amour, et ça peut être aussi deux amis. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, même en pensant à notre expérience personnelle, que finalement, la qualité de silence, ce partage du silence, ce climat de silence, est peut-être ce qui définirait le mieux la qualité du lien. Savoir être silencieux ensemble. Et puisqu'ici, nous sommes dans un grand lieu dédié à Charles de Foucault, le bienheureux frère Charles de Jésus, Charles de Foucault disait « C'est dans le silence qu'on aime le plus ardemment. » C'est dans le silence qu'on aime le plus ardemment. Et il disait aussi « Le silence intérieur est le lieu de rencontre de l'âme avec Dieu. » Le silence intérieur est le lieu de rencontre de l'âme avec Dieu. Alors je vais essayer, je vais vous raconter ou vous lire deux, trois textes, parce que c'est ça qui me paraissait intéressant, de retrouver certaines figures très vivantes qui ont vécu ce silence, de gré ou de force, pour différentes raisons. Mais auparavant, essayons de réfléchir un peu à ce silence que l'on... sans doute pas ici parmi vous, mais que notre monde moderne ignore, ou bafoue sans arrêt, ou piétine sans arrêt. Vous savez, c'était au 19e siècle déjà, le grand philosophe danois, Kierkegaard, je ne sais pas si j'ai ici la phrase, le grand philosophe danois qui disait, mais, oui je l'ai, donc là nous sommes au 19e siècle, Kierkegaard. Si vous n'avez pas lu Crainte et tremblement, lisez Crainte et tremblement, texte majeur de la vie spirituelle. À chaque fois, moi, c'est des occasions de... Sur le sacrifice d'Abraham, c'est un texte extraordinaire, Crainte et tremblement. Alors, Kierkegaard, la vie et le monde, tels que nous les connaissons, sont gravement malades. Si j'étais médecin et que l'on me demanda mon avis sur les hommes, je répondrais « Du silence, prescrivez-leur du silence !» Voilà. Mais c'est peut-être de moins en moins gratuit comme prescription. Vous connaissez tous, nous connaissons tous, je pense, le célèbre épisode qui relate une des théophanies, une des rencontres que Moïse eut avec Dieu sur le mont Horeb. Vous savez, c'est au premier livre des Rois, chapitre 19. Dieu annonce son passage, sa visite à Moïse. Et Moïse se tient dans la grotte, et le texte dit « Et voici que Dieu passa. » Et il y a un immense, un énorme ouragan qui se manifeste. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et ensuite un tremblement de terre épouvantable. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et ensuite, alors il y a plusieurs traductions, tellement c'est subtil. Et ensuite, il y eut le bruit d'une brise légère, ou autre traduction, une voix de fin silence, qui attestait de la présence divine. Voilà. Et je pense que tout ami de Dieu aspire à cette qualité, à cette profondeur de relation qui se passe de mots, aspire à cette relation de fin silence. Et l'ami de Dieu désire aussi vivre cette relation de fin silence avec son ami humain. Nous allons voir plusieurs témoignages. Et je pense, alors là nous passons du mont Horeb, du mont Sinaï, donc à pas de géant, au XIXe siècle, nous nous retrouvons dans la campagne du curé d'Ars, ce si brave et bon curé, plein de bon sens. Et vous connaissez l'histoire, le curé d'Ars, il aimait beaucoup ses paroissiens, et puis dans son église, il remarquait qu'il y avait un vieux paysan qui restait très longtemps à l'église, mais apparemment il ne priait pas, il restait des heures. Et à un moment, le curé d'Ars va le voir et lui demande, et le paysan, alors je pense que vous comprendrez le terme, j'essaierai de l'expliquer, parce que c'est du français et c'est magnifique, et le paysan dit au curé d'Ars, mais je suis là, en parlant de Dieu, je l'avise et il m'avise et nous sommes heureux. Je l'avise et il m'avise, c'est un langage qui veut dire un peu je lui fais face, je le vois, hein, non pas je te dévisage, mais je l'avise et il m'avise et nous sommes heureux. Voilà. Il avait déjà inventé la prière, l'oraison de silence, hein, la méditation silencieuse. Voilà. Et cela veut dire que cette qualité de silence n'est pas réservée ni à des saints, ou à des personnes, ou à des religieux, ou à des personnes intellectuellement cultivées, mais c'est le passage obligé, mais passage ô combien heureux, de toute vie de profondeur. Le silence, vous le savez, là je vais rappeler des choses très simples, le silence n'est pas simplement l'absence de bruits extérieurs, mais c'est surtout la pacification des émotions. Tout ce que les anciens, les spirituels, les auteurs spirituels disent, tout ce qui est les passions mauvaises. Faire le silence, c'est pas simplement se taire, arrêter de parler, ou vivre sans bruit. C'est se dépouiller, se libérer de toutes ces agitations, de toutes ces passions qui dispersent. Et alors de nos jours, la société est terrible pour cela, parce qu'elle nous frustre totalement de notre jardin intérieur, de notre intériorité, par cette dispersion totale. On est happé de tous les côtés, et ça c'est terrible, ça accapare et ça brouille totalement le paysage intérieur. Voilà le silence intérieur. Et donc faire silence, ce serait se dénuder de toutes ces... de cette extériorité, justement. Hein? Se détacher de l'inessentiel. Les mystiques parlent de désappropriation. Quel beau terme. Se désapproprier, bien sûr, de soi-même. Chasser tout ce qui n'est pas Dieu, disait Charles de Foucault. C'est simple, hein? Chasser tout ce qui n'est pas Dieu. Et vous trouverez l'intériorité. Très simple. Faire silence, je l'ai dit, cela ne signifie pas se taire. Faire silence, ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire élargir son espace intérieur, déployer tout son être, faire fleurir son être intérieur. C'est pourquoi, mieux que faire silence, il s'agit de devenir silence. De devenir silence. Devenir silence, c'est écouter profondément. C'est accueillir l'ineffable présence. Hein, l'ineffable, la présence divine ne peut pas se dire, elle ne peut pas se manifester. C'est pour ça que l'orage, les choses les plus grandioses, les plus spectaculaires, l'orage, le feu, le tremblement de terre, non, c'est tout, mais ce n'est pas Dieu. Hein. Devenir silence, voilà, c'est accueillir l'ineffable présence. Entendre le murmure de l'Éternel, c'est autre... voilà. Et je pense que plus nous faisons, c'est-à-dire nous devenons silence, plus nous devenons à la fois profond et léger, extrêmement subtil. C'est une qualité de subtilité. Et c'est ça le silence de vie. Vous savez, en général, on dit, oui, oh là là, là, il s'est établi un silence de mort. Bon, et là, étonnamment, on dit, un ange passe. Ben oui, il a des gros sabots à ce moment-là. Non, non, c'est un silence de vie. C'est ça le silence que, bon, vous vivez, vous éprouvez dans la méditation, ce silence, ou dans les grands moments, ce silence de vie. D'où ce silence entre deux amis, qui est le signe éminent de la qualité de leur lien, qualité de profondeur et de subtilité. Et dans l'histoire du christianisme, donc, souvent, en effet, le silence a été chanté par les moines, puisque le silence s'accompagne de goût pour la solitude, et de vie à l'écart des agitations. Ces fameux magnifiques grands-pères du désert qui ont été, qui ont inspiré tous les, ensuite tous les grands ordres, comme les, en effet les cisterciens, les trappistes, etc. Les pères du désert, vous savez, ce sont ces ascètes qui, du quatrième au sixième siècle de notre ère, ont fui l'agitation des villes pour aller au désert. Et parce que le désert, dans le désert, ce n'est pas qu'il n'y a rien, il y a l'absolu. Dans le désert, il n'y a rien qui voile, qui fasse écran à ce goût pour l'absolu. Le désert, c'est le lieu de la parole aussi. Hein. Donc, aller au désert, c'est laisser derrière soi tout le contingent, tout l'extérieur, tout ce qui est faux et factice. Hein. Et vous savez que les premiers moines, quand ils cherchaient leur monastère, enfin je pense entre autres aux cisterciens, eh bien ils choisissaient, ils disaient les déserts, ou même les chartreux, on parlerait demain, ils disaient aller dans un désert, le désert c'était la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu reculé, loin des villes, hein, pas simplement pour bénéficier du silence des lieux, et puis de la beauté des lieux aussi, mais surtout pour montrer vraiment que... nous ne sommes pas de ce monde. Et ce n'est pas un mépris, c'est une réalité. Donc ce silence propre à la vie monastique et à tout être épris aussi de solitude, on le trouve chez les pères du désert. Alors je donne juste un exemple. Il y a, alors c'est deux noms peut-être pas très connus, mais je les trouve magnifiques. Alors les pères du désert, c'était en Égypte, en Syrie, en Palestine. Et par exemple, le moine égyptien qui s'appelle Barzanuf et son disciple Jean de Gaza, nous avons leurs lettres. On en a 800 lettres qu'ils ont données, des lettres d'enseignement à leurs disciples. Eh bien, ils ont beaucoup écrit sur le silence, mais ils guidaient leurs disciples uniquement par lettres et par billets. Et donc c'est une sorte, il faut le dire aussi, le silence est une ascèse indispensable, mais c'est aussi une nourriture, et ça vous le savez, et quelle délicieuse nourriture. Et c'est intéressant de savoir que, voilà, ils communiquaient, hein, comme on dirait de nos jours, ils enseignaient par la lettre, par le billet, et non pas par la parole, parce que la parole qui peut être tellement belle et nourrissante peut être aussi bavardage. Donc, toujours se méfier, se garder de l'intempérance de la langue. Là, nous sommes en carême, et on parle toujours de se priver de nourriture ou je ne sais quoi, mais la première chose, c'est faire le jeûne de bruit, d'images, et toutes ces choses qui envahissent beaucoup plus. Il vaut mieux manger quelque chose d'important, enfin, manger une grosse soupe bien épaisse, ça ne fait pas de mal, plutôt que prendre toutes ces images bêtes et violentes, hein, et qui... qui brouille vraiment, qui saccage notre intériorité. Alors, j'ai le temps parce que j'ai tellement envie de vous lire de beaux textes. Et il y a un texte que je trouve vraiment magnifique, que j'ai extrait. Vous connaissez, je ne sais pas si on le lit encore, Virgil Georgiou, qui est un grand écrivain roumain, prêtre aussi, qui, entre autres, a écrit « La vie du grand patriarche Athénagoras ». Et à un moment, c'est un peu au début de ce livre, qu'on ne trouve plus, bien sûr, comme tous les livres importants, voici ce qu'il dit concernant, c'est assez long, mais je trouve c'est magnifique par rapport à la notion de silence et d'absolu. C'est l'absolu qui intéresse les moines. À cause de cela, les moines gardent presque tout le temps le silence. Si un moine ouvre la bouche pour parler... c'est qu'il a réellement quelque chose de grave d'important et d'essentiel à demander ou à proclamer. Les moines gardent le silence, même quand il s'agit des choses d'une grave vérité. Ils savent que les mots sont comme des vases trop petits pour contenir la véritable vérité, qui est toujours trop grande, même si on utilise les mots les plus grands. La vérité est une chose immense, impossible à caser dans des mots et des phrases. C'est à peine si elle peut être contenue dans le silence. Car la vérité, pour les moines, n'est pas une vérité mondaine, sociale, historique. Elle est même le plus souvent le contraire de la vérité des gens du monde. La vérité absolue, celle des moines, est au-dessus du monde, au-dessus des choses et du temps. La vérité véritable est comme les flammes qui dévorent les choses et qui s'élancent vers les hauteurs. La vérité est pareille au feu. Elle brûle, elle fait mal, elle cautérise, comme le fer rouge. La vérité brûle les vases dans lesquels on veut la garder. La vérité provoque des incendies. C'est pour ces raisons, pour ne pas s'écarter de l'absolu et pour ne pas provoquer des incendies, que les moines gardent habituellement le silence. Il y a plusieurs sortes de silence entre les amis spirituels, quelques-uns simplement que je citerai, que nous a conservé l'histoire du christianisme. Il y a d'abord, c'est une réalité, parfois triste, mais c'est un silence obligé entre deux amis qui est dû à l'éloignement, à l'absence de courrier. De nos jours, on a tellement de mal à mesurer l'héroïsme et la ferveur de ces chrétiens, de ces moines ou de ces missionnaires qui ont affronté en effet tous les périls sans avoir le moindre courrier, courrier au sens ancien, à savoir le moindre message. Les transports n'étaient pas sûrs, les routes encore moins, il n'y avait aucun quasiment moyen de communication, et c'est pour ça que le silence s'installe de fait. Et qu'est-ce qui résiste à ce moment-là? Les relations profondes, en effet, subsistent. Est-ce que je continue de penser à lui, de penser à elle, de prier pour lui, de prier pour elle, même si je ne sais pas s'il est d'ailleurs encore en vie ou elle est encore en vie. C'est toute l'histoire, entre autres, de François-Xavier que je raconterai un petit peu. C'est terrible, c'est poignant, c'est magnifique. Et en même temps, ça nous pose la question, toujours, la question intéressante, c'est des limites. Jusqu'où va l'amitié? À quel degré de folie, au sens de sainte folie, peut se mesurer un amour ou une amitié? Et c'est cette histoire très belle entre Claire d'Assise, sainte Claire d'Assise, et Agnès de Prague, entre autres. Nous n'avons pas beaucoup d'écrits, nous n'avons que 4 lettres échangées. Mais Claire d'Assise, qui a plutôt 20 ans au moins de plus que cette jeune princesse, qui elle est promise à épouser, à faire un mariage au princier, à être donc honorée, fêtée, riche, donc épouse et mère, etc. Et elle sent qu'elle a une vocation spirituelle et elle veut, renoncer à tout cela, à ses honneurs et à une vie conjugale pour vivre comme Claire, sauf qu'elle vit à Prague. Et elle prend un peu Claire d'Assise, Sainte Claire, comme guide spirituel. Il va y avoir des échanges, nous avons ces lettres qui sont conservées, qui sont extrêmement touchantes, parce qu'au début, comme toutes les lettres, c'est « chère ou « chère sœur » ou « chère madame », etc. Et puis après, c'est « mon amie, ma très chère »,« ma tendre amie », etc. Et elles ne se verront jamais. Elles ne connaîtront même pas le visage l'une de l'autre. Vous voyez, c'est touchant. Et il y a une véritable amitié spirituelle, profonde et irréversible entre toutes les deux, qui se stimulent, qui se conseillent, qui prient l'une pour l'autre. Et en même temps, se dit, elles ne se seront jamais rencontrées. Elles n'auront jamais connu le son de leur voix, elles n'auront jamais vu leur visage, et leur amitié est absolument indissoluble et pour toujours. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir ces cas extrêmes, Hein, mais ça peut arriver d'avoir une correspondance avec quelqu'un et qu'on ne verra pas, et pas par volonté non plus, mais ce qui demeure est plus puissant. Hein, c'est invisible, mais ça échappe au temporel, justement. La force de cette amitié, c'est justement qu'elle échappe au physique et au temporel. Hein. Elle est, dès le départ, vouée à l'éternel. Il y a aussi, souvent, dans les relations d'amitié spirituelle, par exemple, c'est l'histoire du dominicain Jourdain de Saxe et de la moniale Diane d'Andalo. Lui, il va évangéliser et il dit bon, moi, je vais agir, je vais faire l'apôtre, l'apostolat, et vous, vous restez, vous priez pour moi. Et en même temps, elle voudrait beaucoup plus échanger de lettres et de conversations avec lui. Et on sait que à la fin de là, nous sommes au XIIIe siècle, et ensuite, à un moment, l'amitié, il y a d'autres exemples où il s'agit déjà d'avancer longuement sur le chemin spirituel. L'amitié, à ce point-là, peut se passer de preuves de présence physique. Enfin, ça nous paraît très douloureux, hein, presque inhumain. Mais à un moment, en effet, le plus important a été dit ou est vécu. Et je vous donne, je lis juste un passage de la lettre, c'est sans doute la dernière lettre de Jourdain, de Saxe, qui est parti, qui sans doute va mourir dans un naufrage, et il sait qu'il ne reverra certainement pas Diane d'Andalo, qui est très inquiète pour lui. Et voilà ce qu'il écrit, elle était à Bologne, et voilà ce qu'il lui écrit par rapport à, enfin, certainement sa dernière lettre, nous sommes en 1236 à peu près. Puisqu'il ne m'est pas possible de te voir des yeux du corps et de me consoler auprès de toi, très cher, aussi souvent que tu les voudrais et que je le voudrais moi-même, je repais et j'apaise un peu cependant le désir de mon cœur lorsque je puis te visiter par mes lettres et t'écrire de mes nouvelles. Et je désirerais aussi savoir comment tu es, car tes progrès et tes joies en Dieu sont la douce nourriture de mon esprit. Mais tu n'es pas assez sûre des régions où je suis partie pour m'y toucher par tes lettres. En effet, elle ne peut pas, elle ne sait pas, il navigue beaucoup, donc elle ne veut pas lui écrire. Et les connaîtrais-tu, tu ne trouverais pas de messager pour me les apporter. Du reste, c'est peu de choses, chère, que ce que nous nous écrivions l'un à l'autre. C'est au plus profond de nos cœurs qu'est la ferveur de dilection dont nous nous aimons dans le Seigneur. Et c'est là, dans cette intime affection de la charité, que tu me dis, et que je te dis sans fin, ce que nulle langue ne peut dignement exprimer, et nulle lettre contenir. Voilà. On arrive toujours à cette qualité de grand silence qui dépasse toute déclaration d'amour ou d'amitié. Et là, c'était au XIIIe siècle, mais j'ai laissé passer aussi une jolie lettre de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, alors lui qui avait beaucoup d'amis, qui a beaucoup écrit à des hommes, à des femmes, à des religieux, à des dames nobles, avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, et puis Bernard de Clairvaux est un tempérament ardent, et alors là il vient d'être très malade. Et il a reçu une lettre d'un ami, un de ses amis, qui est chanoine et qui s'appelle Augier, O-G-I-E-R. Il reçoit cette lettre, il répond à la lettre, et vous verrez que la lettre, très joliment, bien sûr il s'écrit en latin, donc très joliment traduite, la lettre dit que c'est magnifique de s'écrire, et en même temps, on peut s'en passer parce que l'essentiel est déjà là, est déjà dans le cœur. Alors voilà ce qu'écrit notre ami Bernard de Clairvaux, en est compte, en vers 1125. À ta courte lettre, je fais une courte réponse et prends volontiers prétexte de ta brièveté pour être bref moi-même. À vrai dire, enfin c'est pas si bref que ça, à vrai dire, que sert-il à une amitié vraie, à une amitié définitive, comme tu dis, de se répandre en paroles inconsistantes et éphémères. Même quand tu cherches à me montrer et manifester ton affection par une quantité de termes, un luxe d'expressions variées, je sens bien que tu m'aimes encore plus que tu ne le dis. Et réciproquement, tu ne te tromperas pas en pensant la même chose de moi. Lorsque ta lettre est arrivée dans nos mains, elle t'a trouvé déjà dans notre cœur, toi qui l'avais envoyée. Je suis également sûre qu'en t'écrivant cette lettre, je t'ai près de moi, autant qu'en la lisant, tu m'auras près de toi. C'est une fatigue pour tous les deux de nous écrire, une fatigue pour nos courriers de porter les lettres. Mais est-ce une fatigue d'aimer ? Laissons donc ce qui ne peut se faire sans fatigue et cultivons ce qui donne d'autant moins de peine qu'on s'y applique davantage. Oui, notre cerveau peut se reposer de dicter, nos lèvres de parler, nos doigts d'écrire, nos messagers de courir. Mais que nos cœurs ne se lassent pas de méditer nuit et jour la loi du Seigneur, et cette loi est l'amour. Et oui, là nous prenons des leçons de, non seulement de, d'écriture, mais de connaissance du cœur, la finesse de relation entre ces êtres. Et toujours, vous avez vu, ce rappel à cette amitié qui a pour fondement et finalité, pour fondation même, le Seigneur, hein, qui a l'amour de Dieu. Donc voilà, ce silence obligé, et puis j'évoque aussi ce grand saint qu'est François Xavier, de la Compagnie de Jésus, le jésuite. Entre parenthèses, nous aurons l'occasion certainement d'en parler, pas lors d'une conférence, mais comme ça, ici et là, dans les pauses. Mais s'il y a un film que je vous conseille beaucoup, beaucoup de voir, c'est le film Silence, qui bien sûr est passé inaperçu parce que j'ai vu des critiques. Oui, c'est un film spirituel, donc rébarbatif, tel quel. Bon, d'accord. Et je dis cela parce que c'est l'aventure terrible. C'est le film de Scorsese qu'il a mis 20 ans à... admirable film, qui touche au combien, qui bouleverse, devrait bouleverser les chrétiens. Mais j'allais dire n'importe qui, c'est un questionnement sur la foi, la trahison, la fidélité, c'est admirable. Allez-y, parce que déjà à Paris ça ne se joue quasiment plus, donc c'est effrayant. Le silence dont il est question, là, c'est d'après un livre japonais de 1930-38, c'est le silence de Dieu, enfin l'histoire de la douloureuse histoire de Job. Hein. Mais le silence qu'a vécu, qui pouvait être aussi celle de François Xavier, maintenant Saint François Xavier, c'est cet homme qui était un homme qui aimait la vie, qui aimait la fête, c'était un chevalier, c'était aussi un champion de saut en hauteur, et quand il rencontre, c'est à Paris au Collège Sainte-Barbe, il rencontre Inigo, Ignace de Loyola, qui était déjà moins fringant à voir et moins athlétique, et lui qui avait vraiment une vision spirituelle bien, enfin un dessin spirituel bien déterminé, et qui finit par convaincre ses camarades de chambre, donc Pierre Favre et François Xavier, et donc il leur montre les exercices spirituels, etc. Et puis il décide de répandre l'évangile. Donc c'est l'époque des missions. Là nous sommes au XVIe siècle, le XVIe, XVIIe. Et un jour, quand vous lisez ses vies, ça vous dites, mais que l'on est tristement sédentaire et dans la sécurité, c'est effrayant, effrayant. Et là, un jour, eh bien, Ignace de Loyola dit à François Xavier, bon, ben, demain tu pars aux Indes. Il dit, ah bon, très bien, j'y vais. Et aux Indes. En SV, on ne va pas parler des transports, des avions, etc. Voilà, il faut apprendre la langue, et puis on ne sait pas quel pays. Voilà, et on ne part pas avec 36 000 bagages. On part avec la parole de Dieu. Et sa foi immense. Voilà, et donc c'est pour ça que je disais, le film Silence retrace aussi magnifiquement cette époque-là, avec bien sûr, plus que les risques, le martyr, la torture qui les attend la plupart du temps, la mort. Hein. Bon. Et François-Xavier, nous avons, donc il essaye de correspondre, là je ne vais pas parler de sa mission, hein, ni au Japon, c'était le premier évangélisateur du Japon, mais bien sûr ses amis, et entre autres les amis de la Compagnie de Jésus, donc Ignace qui est quand même le directeur, et les autres, lui envoient des courriers, des lettres, mais qui arrivent une fois tous les combien, hein, parfois tous les 4 ans. Et alors c'est poignant quand vous lisez les lettres après de François-Xavier qui lui aussi, et il reçoit en 4 ans une lettre, vous imaginez, on peut se dire, mais et à ce moment-là il dit, mais je la garde sur mon cœur et je pleure et je la couds sur mes habits, votre lettre. Voilà, voilà le prix, la profondeur de l'amitié spirituelle. Et après, Ignace va lui dire, lui envoie aussi, lui fait envoyer une lettre en disant, bon, maintenant, reviens, c'est terminé. Sauf que François-Xavier, lui, il est mort. Et c'est comme il n'a pas de nouvelles pendant, etc., ben, on finit par croire, ah ben oui, ben, certainement, cette fois, il n'est plus en vie. Enfin, du moins dans cette vie-ci. Je pense qu'il est dans la vie éternelle. Mais bon. Donc, vous voyez, c'est toujours, pour nous qui, encore une fois, mais ne parlons que de protection, d'être garantie de tout contre tout, etc. Mais ce n'est pas ça, la foi. La foi est tout sauf une sécurité. Hein, c'est une grande folie. C'est une grande folie. Bon, sinon, bon, ben, on construit son abri anti-atomique et puis on marmonne, je ne sais pas quoi. Hein. Et c'est ça qu'il nous rappelle. C'est ça qu'il nous rappelle. Non, non, mais ça peut faire peur. Alors, bien sûr, oh là là, les fous de Dieu, etc. Oui, mais c'est cette dimension-là de la foi. Et alors, cette qualité de silence, vous voyez, donc là, c'est pas... Il a dû l'intérioriser aussi, dans le sens que, même s'il ne les voit pas, même s'il n'a pas de leurs nouvelles, ils sont, ses amis sont dans son cœur, et lui aussi, il est dans leur cœur. Mais vous imaginez cette mise à l'épreuve du lien, la qualité de relation. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas le grand troisième, comme dit Elred, s'il n'y a pas le tiers qui est le Christ entre nous, ben ça s'effondre vite. Hein. Au bout d'un moment, on écrit un peu, on répond, puis après, bon, on ne donne plus de nouvelles. Hein. Voilà le sens profond, et véritable et ultime. Donc voilà ce silence qui est un peu où là je vois que l'heure passe. Et puis il y a un silence beaucoup plus, alors merveilleux, parce que je ne vais pas tout vous raconter, tout vous lire le texte, mais il y a le silence aussi, on a des traces ici et là, et pas simplement dans le christianisme d'ailleurs, le silence qui est un accord immédiat entre deux êtres de profondeur. Si deux êtres, j'allais dire de... plutôt tempérament mystique, mais deux êtres contemplatifs plutôt, deux êtres qui ont cette expérience du grand silence qu'est la contemplation, du grand silence de Dieu, enfin du grand silence savoureux, j'allais dire, de la présence, eh bien quand ces deux êtres se rencontrent, ils n'ont pas besoin de se raconter leur vie, toi par où t'es passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as suivi comme enseignement, comme discipline, ils savent qu'ils se connaissent profondément en Dieu. Et ça, ils n'ont pas besoin à ce moment-là de se raconter, c'est cette expérience immédiate. Et il y a une anecdote qui est très jolie et qui, espérons, est vraie, même si, vous savez, elle est dans les Fioretti de Saint-François. Les Fioretti, c'est le XIVe siècle, vous savez, c'est toutes les jolies histoires que l'on a inventé ou raconté à propos de Saint-François et des franciscains, mais et des frères aussi, des moines franciscains, mais je pense que c'est aussi, il y a aussi des choses véritables, et là c'est une anecdote, un épisode de vie qui raconte comment le roi de France Saint-Louis alla en personne en habit de pèlerin rencontrer un frère Gilles, qui était donc un compagnon, enfin un disciple, pardon, de François d'Assise, et il est allé à Pérouse pour rencontrer, pour faire visite à ce frère, saint frère Gilles. Et je vous lis juste un passage. En arrivant à la porte du couvent des frères, comme un pauvre pèlerin inconnu, donc Saint-Louis, avec peu de compagnons, il demande avec grande instance frère Gilles, sans dire au portier, en effet, qui était celui qui le demandait. Le portier va donc à frère Gilles et lui dit qu'il y a à la porte un pèlerin qu'il demande. Et il lui fut en esprit révélé par Dieu que c'était le roi de France. Aussi, en grande ferveur, donc ça c'est frère Gilles, qui sort précipitamment de sa cellule, il court à la porte. Et sans aucune question, sans que jamais ils se fussent vus, S'agenouillant avec une très grande dévotion, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre avec la même familiarité que s'ils avaient depuis longtemps entretenu une grande amitié. Mais durant tout cela, ils ne parlaient ni l'un ni l'autre, mais ils restaient ainsi embrassés, en silence, donnant tous ces signes de charité et d'amour. Et après qu'ils furent restés un long espace de temps en cette étreinte sans dire un mot, ils se quittèrent. Et Saint-Louis s'en alla continuer son voyage, et frère Gilles retourna à sa cellule. Alors l'épisode continue en disant, les frères disent, mais quoi, le roi Saint-Louis, tu ne lui as pas parlé, etc. Et frère Gilles a dit, mais non, c'était bien, on s'est tout dit, il est parti tout à fait consolé, heureux, et moi aussi. Ça nous donne de grandes et belles leçons et fines leçons. Mais vous savez, c'est à la même époque, là on est au XIIIe siècle, les Fioriti sont du XIVe et XIIIe siècle, et à la même époque, ça c'est du côté, chez les soufis, du côté de l'islam, il y a aussi ces témoignages tout à fait merveilleux, donc, du grand soufi Ibn Arabi, et on dit que tout jeune, il va rencontrer divers maîtres, divers grandes personnalités de son temps, et entre autres Averroès, et le jeune Ibn Arabi rencontre à Cordoue Averroès. Donc là, nous sommes au début du XIIIe siècle, fin XIIe, début XIIIe, et le jeune Ibn Arabi, face à Averroès, il se regarde, il reste en silence un bon moment, sans se parler, et à la fin, donc leurs âmes certainement, ou leurs cœurs se sont rencontrés, Ibn Arabi dit oui, et Averroès dit oui. Et le même Ibn Arabi, le grand Ibn Arabi, de même qui rencontre ensuite le grand philosophe, théosophe persan Sohrawardi, et là aussi ils voulaient se rencontrer, c'était de grandes statures, là on n'est plus à la même époque, ils sont connus tous les deux, enfin une autorité spirituelle importante, Ibn Arabi et Sohrawardi, le persan, et ils restent en silence pendant une heure. Mais ça peut être aussi plus, on peut être resté en silence pour l'éternité. D'ailleurs, ce serait une belle façon de concevoir l'éternité. C'est bien les chants de louange, mais un immense silence serait pas mal non plus. Hein. Mais voilà donc cette qualité aussi de communion. Hein. On l'avait avec Saint Bernard en disant ce silence aimant qui rend inutile toute déclaration d'amitié. Hein. Pour revenir encore pour Charles de Foucault, vous savez qu'il a lié amitié aussi avec le grand orientaliste Louis Massignon, qui est revenu au catholicisme, enfin qui s'est converti à nouveau, si on peut dire. Et alors on a un témoignage de Louis Massignon qui dit vraiment Charles de Foucault, on voit bien qu'il a tout du moine trappiste par son goût total et irréversible du silence. Et il dit que Charles de Foucault donc était resté un trappiste, et il dit, Louis Massignon, je me souviens de ses silences pouvant dépasser 10 minutes lorsque je l'accompagnais à pied. C'est amusant parce que Louis Massignon devait certainement lui demander quelque chose, vouloir le voir pour le converser. Et Charles de Foucault aussi, ben c'est la grande leçon du désert, hein, qui est celle du silence, qui est le silence d'absolu. Et puis pour ne pas vous saturer, donc il y a ce silence au-delà de l'amitié terrestre, on l'a vu pour ces missionnaires, pour François Xavier, il y a aussi cet étrange, je vous donne juste cette piste-là, cet étrange sacrifice, on pourrait dire, d'amitié que François de Sales demande à Jeanne de Chantal. C'est après la retraite, en Pentecôte 1616, et vous savez, c'est la grande amie spirituelle, Jeanne de Chantal, la grande amie spirituelle, tous les deux vont fonder l'ordre de la visitation, et elle l'inspire beaucoup, hein, c'est elle qui sera appelée Philothée, hein, celle qui aime Dieu dans les ouvrages de saint François de Sales. Et à un moment, alors que leurs lettres sont merveilleuses de profondeur et de qualité spirituelle et aussi pleines de tendresse, François de Sales lui dit en effet qu'il faut, sacrifier cette amitié, qu'il faut tout sacrifier pour la grande dénudation spirituelle, hein, qu'il faut renoncer à tout, et même leur amitié si belle doit être sacrifiée, mais ce n'est pas un sacrifice au sens, ce n'est pas une coupure, une déchirure, c'est une consécration de cette amitié. Voilà, alors je finirai par cette belle amitié entre deux hommes qui ne sont pas des religieux, puisque l'amitié spirituelle, je n'avais pas besoin de le préciser, ça peut être entre deux personnes consacrées, religieux, religieuses, mais ça peut être aussi entre deux laïcs, ça peut être entre laïcs et religieux, c'est ça qui est merveilleux, puisque la question est simplement celle de l'orientation vers Dieu. On connaît par exemple cette magnifique amitié entre Simone Veil et le dominicain Père Perrin. Et Simone Veil, voilà encore quelle personne, quel philosophe qui aimait tellement le silence aussi et l'amitié. Et là, les deux personnes que je veux juste faire passer devant vous un instant, puisque vous avez compris, c'était plutôt pour vous donner envie d'aller les rencontrer, les retrouver, lire leurs textes ou leurs lettres, leurs correspondances. C'est Charles Péguy, qui est beaucoup plus âgé que Alain Fournier, Henri Fournier, qui va prendre le pseudonyme d'Alain Fournier, le fameux auteur, même si ce n'est pas son seul livre, Le Grand Mold, qui a échoué au Goncourt, comme quoi rien n'est jamais perdu, ça c'est le célèbre échec du Goncourt, et qui est un livre très connu et très beau. Et il y a un parallèle, ils se sont rencontrés vers 1910, et il y a un parallèle dans leur itinéraire, aussi bien sentimental que spirituel. Charles Péguy est bien sûr l'aîné, et il est connu, reconnu, il a lancé les Cahiers de la Quinzaine, il est engagé dans le socialisme, et il retrouve le catholicisme à un moment, malgré, j'allais dire, Maritain qui veut le convertir à tout prix, qui est vraiment trop pressant, et de son côté, et puis là, il vit aussi une passion amoureuse impossible, et de son côté aussi, Alain Fournier, qui est beaucoup plus jeune, qui pourrait passer pour disciple, et qui ne sera jamais, parce que Péguy ne veut pas de disciple, lui l'amitié est à égalité, donc peu importe l'âge, c'est ça qui est bien aussi en amitié, la différence d'âge importe pas du tout. Et Alain Fournier, qui lui aussi vit cette passion impossible avec celle qu'il appelle Yvonne de Galais, et qui aussi après lui retrouve la foi de son enfance, le catholicisme, et ces points importants, et surtout le catholicisme retrouvé dans sa fraîcheur première, scelle une amitié extraordinaire entre les deux hommes. Et même la grandeur de Charles Péguy, qui est connu, reconnu, eh bien, il demande à Alain Fournier ce qu'il pense de ses poèmes. Vous imaginez. Et jamais il se posera en maître, y compris maître en littérature. Et ils marchent tout le souvent ensemble, en devisant ou pas, et vous connaissez aussi que c'est Charles Péguy qui emmène son ami en pèlerinage de Chartres. Ils feront plusieurs pèlerinages, et puis un jour, Alain Fournier hésite, et Charles Péguy lui dit « mais je l'ai fait pour toi aussi, je vais avec toi », parce que c'est ça, la merveille de l'ami, ou de l'être que l'on aime, c'est on l'emporte toujours avec soi, on l'emmène toujours avec soi. Donc pourquoi, à quoi bon la distance? Enfin la distance, l'éloignement, la mort même ne compte pas, c'est ça aussi. Et vous connaissez, alors c'est dans le texte qui s'appelle Victor Marie Comte Hugo, c'est dans ce texte, donc de octobre 1910, qu'il y a ce si beau passage sur le silence de l'amitié qui va terminer notre rencontre, pour que vous puissiez aussi savourer le silence du sommeil et de la nuit. Ce qui est touchant aussi dans ces itinéraires parallèles, même si les générations sont différentes, comme Claire d'Assise et Agnès de Prague, plus jeunes, mais ce n'est pas une relation maternelle ou filiale, de même, ce n'est pas une relation de père à fils, c'est une relation d'égalité, de réciprocité et d'amitié spirituelle. Et c'est extrêmement touchant et troublant que l'un comme l'autre vont mourir lors de celle qu'on appelle hélas la Grande Guerre, en 1914, à quelques semaines près, et Henri Fournier ne saura pas, Alain Fournier donc ne saura pas que Péguy est mort quelques 15 jours avant, et ils meurent tous les deux en septembre 14. Et voilà ce que sans doute leur déambulation nocturne dans les rues de Paris ou leur marche de profonde amitié, qui n'ont pas besoin de parler, mais qui communient profondément dans le silence, qui se nourrissent de silence. Une amitié bâtie sur le silence aussi, puisque, encore une fois, le silence est une assaise et une nourriture, et un appel à la profondeur du lien. Voilà ce qu'écrit avec, vous connaissez le rythme de marche et de répétition, hein, pas de piétinement ou de heureux piétinement de la prose magnifique de Peggy. Heureux deux amis qui s'aiment assez, qui veulent assez se plaire, qui se connaissent assez, qui s'entendent assez, qui sont assez parents, qui pensent et sentent assez d'eux-mêmes, assez ensemble, en dedans, chacun séparément, assez les mêmes chacun côte à côte, qui éprouvent, qui goûtent le plaisir de se taire ensemble, de se taire côte à côte, de marcher longtemps, longtemps, d'aller, de marcher silencieusement, le long des silencieuses routes. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour savoir se taire ensemble. Merci Charles Péguy. Et merci à vous. Passez une bonne soirée, une belle et bonne nuit, et puis les petites questions ou les grandes questions seront posées et Père Laurence Freeman et moi-même, nous essaierons de répondre. Merci de votre attention et de votre écoute.